Une chose est claire, c'est que dans l'entre-deux-guerres, les expertises médicales commencent à se développer progressivement, lentement, hein, mais les juges demandent de plus en plus souvent donc aux médecins d'intervenir et d'examiner les petites victimes, et puis ils demandent aussi de plus en plus souvent aux médecins, ce qu'on appelait les médecins aliénistes à la fin du 19e siècle, et puis qu'on appelle les psychiatres au 20e siècle, ils leur demandent de venir examiner les prévenus et les accusés. Et il me semble que le rôle de cette expertise médicale a été important aussi à travailler, disons, en profondeur et a permis qu'émerge progressivement cette question. Il faudrait aussi évoquer rapidement l'influence du freudisme, hein, même si Freud est peu entendu, peu lu, peu entendu en France, pour des raisons qui tiennent à l'organisation même de la psychiatrie française et aux réticences des psychologues, quand même un certain nombre de choses passent, et notamment la question de l'écoute. Je pense que ça a été quelque chose d'important, l'idée que ben, on pouvait peut-être se mettre à écouter les enfants. J'enjambe un peu ces décennies-là, au cours desquelles il ne se passe pas, disons, de choses qui sont très manifestes ou très spectaculaires. Pour aborder l'après-guerre et singulièrement les années 70, où là, quelque chose qui est de l'ordre de la révélation publique se fait et se fait dans les médias. Puisque les années 70, et là, c'est très important évidemment de bien comprendre ce qu'est ce contexte des années 70, sans quoi on commet des erreurs qui me semblent graves. Les années 70 sont donc celles qui suivent 1968 et sont vraiment le temps d'une espèce de grand réexamen de toutes les questions qui tiennent à l'organisation sociale, à l'organisation familiale et à la sexualité. Et elles, donc toutes, c'est comme si tout était déplié à ce moment-là. Rien ne va plus de soi. Rien de ce qui était moralement accepté comme étant relevant d'une évidence. Rien ne va plus de tout ceci donc est réanalysé. Et c'est donc le moment où se développe une espèce de discours proliférant sur la liberté sexuelle qui est d'ailleurs entendue comme un instrument de libération tout court, de libération politique, hein. Et cette liberté sexuelle, un certain nombre de ceux qui occupent, disons, l'espace médiatique, affirment qu'elle concerne aussi les enfants. Elle concerne aussi les enfants, et donc assez vite la question c'est bah, pourquoi est-ce que les enfants seraient protégés ou interdits d'avoir une sexualité par une loi qui au fond brime leur désir? Puisque la loi elle est très claire hein, depuis 1810, il faut quand même rapidement revenir dessus, le code pénal criminalisait déjà la relation sexuelle entre un adulte et un enfant. Il précise cette criminalisation en 1832 avec une première loi qui crée l'attentat à la pudeur sans violence. Jusqu'alors, il fallait qu'il y ait de la violence, hein. À partir de 1832, et sont sanctionnées toutes les activités sexuelles entre sont potentiellement sanctionnées toutes les activités sexuelles entre un adulte et un enfant de moins de 11 ans. Cet âge passe à 13 ans en 1863 et à 15 ans en 1945. Donc on l'élève progressivement, comme si justement cette prise en compte de la réalité de ce qu'est l'enfant et puis de ce qu'est l'adolescent, prépubère, pubère, comme si donc cette prise en compte allait croissant. Donc dans les années 70, tous ceux qui sont vent debout contre l'ordre établi, les valeurs bourgeoises, la morale, etc., disent mais pourquoi interdire aux enfants d'avoir une vie sexuelle? Et c'est dans ce contexte donc que se développe un discours pro-pédophile, qui est le discours de ceux qui se réclament de la pédophilie, qui se nomment eux-mêmes pédophiles, en empruntant d'ailleurs ce terme à la psychiatrie, puisque c'est un terme qui a été inventé par un psychiatre français, puis repris par Richard von Krafft-Ebing, qui est un psychiatre autrichien, mais qui ensuite a été oublié. Hein, il a été inventé à la toute fin du 19e siècle, et puis ensuite il n'est plus guère utilisé par personne. Et les pratiquants de la sexualité avec un enfant des années 70, en quelque sorte, l'exhument, le ressuscitent et disent ben, « nous sommes pédophiles », ce qui veut dire très concrètement, très précisément, nous aimons les enfants et nous aimons le corps des enfants. Mais naturellement, nous n'exerçons sur eux aucune violence et nous n'avons de relations sexuelles qu'avec des enfants qui sont consentants. C'est donc autour de cette notion de consentement que va se cristalliser le débat, ou même la polémique, hein, puisque précisément le code pénal est très précis, disant un enfant ne saurait consentir. Donc le code pénal avait formellement évacué cette question du consentement en disant il n'y a plus à demander aux enfants s'ils ont été consentants ou pas, c'est pas la question, puisqu'on sait très bien que on peut exercer sur les enfants une autorité, une influence, une séduction qui va les conduire à faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire, hein, mais à les faire quand même.
Alors qui ? On parle de qui ?
Alors plein de gens,
on a tendance à penser c'est des intellectuels de gauche.
Alors, c'est vrai, pour partie c'est vrai,
oui.
Dans le sillage de 68, la libération sexuelle, la libération des mœurs, la libération de toute une série de choses. Et dans ce cadre-là, c'était d'ailleurs un des arguments, la pédophilie doit prendre sa place dans ce processus de libération qui était en œuvre. Donc beaucoup de gens à gauche, bien sûr, au nom de la libération, mais j'ai découvert en faisant l'enquête qu'il y avait aussi, à l'extrême droite, aussi étonnant que ça puisse paraître, des gens qui défendaient des thèses pédophiles. Alors d'une manière complètement différente. Hein, c'est quand on s'approche de la manière de faire, les arguments ne sont pas du tout les mêmes. Les gens de gauche vont privilégier des valeurs égalitaires, donc vont essayer de rapprocher l'adulte de l'enfant. Alors, rapprocher l'adulte de l'enfant, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, d'une part, les adultes sont habités par une âme d'enfant, tout adulte conserve une âme d'enfant, et d'autre part, tous les enfants sont des personnes.
Les adultes en devenir.
Les adultes en devenir, mais donc...
Soif de découverte.
Soif de découverte, et donc des personnes. Donc, diminuer la taille de l'adulte, grandir la taille de l'enfant, ça crée une diminution de l'écart qui permettait de rapprocher et de rendre acceptable, pensable, envisageable la relation pédophile. Ça, c'est plutôt un argumentaire de gauche.
D'accord.
Hein, c'est-à-dire qui privilégie les valeurs égalitaires. Mais à l'extrême droite, il y avait des revues dans lesquelles des arguments comme ça étaient défendus. On va au contraire privilégier des valeurs inégalitaires, où là, l'asymétrie, le décalage entre l'adulte et l'enfant, au contraire, va être valorisé et va prendre place un argumentaire dans lequel l'inégalité est valorisée avec un arrière-fond, par exemple militaire, par exemple de rapport de force ou de violence, où là, c'est quelque chose de bien, hein, tout simplement l'initiation, hein, qui renvoie à la Grèce ancienne, et qui suppose une inégalité absolue entre les acteurs en présence. Hein. Donc dans un cas, on essaie de gommer l'inégalité, dans l'autre, on la conserve et on la survalorise. Alors il y a une revue dans laquelle se sont exprimées toutes ces idées, c'est la revue Gay France, qui était une revue qui était proche des milieux révisionnistes, néo-nazis, avec toute une série de gens qui évoluaient là-dedans, qui étaient proches de ces réseaux-là, qui était une revue à la fois pro-pédophile, homosexuel, c'était un peu mélangé, et on faisait, dans cette revue-là, ouvertement, l'apologie de la pédophilie, des relations adultes-enfants, etc.
Alors, quels étaient les arguments de ceux qui voulaient légitimer la pédophilie ? Est-ce qu'ils s'intéressaient à des études scientifiques, à l'histoire ?
Alors l'histoire, oui, ça c'était des voies d'accès privilégiées aux tentatives de valorisation. Je dois dire que les sciences sociales étaient sollicitées dans leur ensemble, c'est-à-dire sociologie, histoire, anthropologie, bien sûr. Toutes ces disciplines-là étaient mises à contribution pour essayer de défendre la cause. Alors évidemment, l'histoire était sollicitée en premier lieu, bien sûr, avec la référence à la Grèce antique et à la pédérastie antique.
Alors, qu'est-ce qu'on sait de cette période ?
Bah, écoutez, pas mal de choses. C'est une période...
Moi, ouais, j'ai entendu tout et son contraire hein, sur cette période, concernant la pédophilie.
Oui, alors, disons que les relations pédophiles, là, j'emploie le terme dans une acception anhistorique, non-historique, parce qu'évidemment, c'est un mot qui n'existait pas à l'époque.
Oui,
et ça compte, les mots qu'on utilise, parce que les mots, ils véhiculent aussi tout un arrière-fond social, etc. Et les mots, il faut y être attentif, leur moment d'apparition, etc. Donc, la pédérastie antique, c'est une occurrence de relations sexuelles adultes-enfants.
enfant ou...
Oui, prépubère.
Prépubère.
Ben oui, parce que la limite, c'était justement la puberté où ça devait s'arrêter. Mais si vous voulez, encore une fois, ça a été vraiment l'argument de la pédération antique, socle, la très transversale aussi gauche-droite, qui permettait de montrer que, puisque c'était arrivé une fois dans l'histoire, puisqu'il y avait une occurrence historique très prestigieuse, eh bien, on pouvait considérer que ça pouvait être réactualisé et remis à l'œuvre. Mais ce n'était pas le seul point d'accès pour les défenseurs de la pédophilie. L'anthropologie était aussi sollicitée pour défendre ces arguments-là. Et à l'époque, dans les années 80, il y avait des livres qui paraissaient. Alors le grand ouvrage qui a été beaucoup cité, c'est le livre de Godelier sur les Baruyas en Nouvelle-Guinée, ou et plus largement, si vous voulez, tous les travaux qui portaient sur la Nouvelle-Guinée où les relations sexuelles adultes-enfants se pratiquaient avec une dimension d'initiation, bon, un peu comme en Grèce antique, c'est pas du tout une spécificité unique.
Bon. À quelle époque?
Les Baruyas, non, c'est assez contemporain, hein, je veux dire.
D'accord.
Au moins quand Godelier faisait ses enquêtes, hein, au moins jusqu'au dans les années 60.
Okay. De quelle façon?
Alors, si vous voulez, chez les Baruyas, c'était une initiation qui permettait aux enfants de 9 ans, à partir de 9 ans, d'absorber du sperme par les adultes, et c'était considéré comme des rites de masculinisation. Si vous voulez, les enfants quittaient le domaine de l'enfance, à 9 ans, pour les Baruyas, et faisaient des fellations donc aux adultes qui avaient entre 15 et 20 ans. C'était très formalisé, si vous voulez, n'importe qui ne pouvait pas faire n'importe quoi.
C'était un rite initiatique.
C'était un rite initiatique qui permettait de viriliser les enfants, de permettre leur processus évolutif dans le monde des adultes, dans la mesure où le sperme chez le Baruya était réputé avoir des qualités extraordinaires.
Donc on est presque dans du rituel magique, on est dans du symbolique. Quelque part, est-ce que ça s'appelle encore de la sexualité?
Si on part du principe que la sexualité, c'est la mise en œuvre du sexe, on peut considérer que c'est de la sexualité, avec un arrière-fond culturel très fort, évidemment, mais comme toute sexualité, elle est toujours immergée dans une culture.
Ça se répétait, c'était...
Ça se répétait pendant longtemps.
Pendant longtemps, c'est-à-dire?
Pendant des années.
D'accord, plusieurs années.
Oui. Et ça faisait partie du processus par lequel on devenait adulte. Mais si vous voulez, donc ça, c'est tout à fait attesté. Et puis, il y a d'autres études anthropologiques en Nouvelle-Guinée notamment, ça s'est beaucoup fait là-bas, qui montraient que ça existait. Et c'était valorisé par ces sociétés, et ça se pratiquait. Voilà. Alors, Godelier dit qu'il y a une dimension quand même érotique dans ces gestes, mais c'était évidemment pas seulement ça. Les enfants ne pouvaient pas s'y soustraire. C'était aussi un secret qui était gardé entre les hommes. Les femmes n'avaient pas accès à cette information-là. Et d'ailleurs, Godelier lui-même n'utilise pas le terme pédophilie dans son étude. C'est pas tellement ça qui m'intéressait.
C'est la façon dont on utilise l'information.
C'est intéressant en soi, bien sûr, mais c'est la façon dont on utilise l'information. Faire référence à l'anthropologie pour dire, bah, vous voyez.
C'est normal.
Les Baruyas le font, pourquoi nous on le ferait pas? C'est ça l'argument. Et évidemment, c'est assez convaincant. Dans la mesure où, c'est assez convaincant, disons que quand on essaie de comprendre les arguments, et on constate que des contacts sexes entre adultes, enfants existent, sont valorisés dans d'autres sociétés à d'autres époques, ça porte. Et si on veut essayer de décrire correctement les controverses, il faut évidemment pas se mettre à distance, il faut essayer de se rapprocher pour voir à quel point ces arguments ont pu porter. Et je veux dire, l'anthropologie, c'est quand même une science tout à fait légitime dans les sciences humaines, et il y avait tout lieu de s'intéresser à ça. Alors, je parle de l'anthropologie, on peut faire un retour à l'histoire. Il y a eu des livres qui ont eu beaucoup de succès à cette époque-là. Je pense au livre de Philippe Ariès sur l'enfant dans l'Ancien Régime, ou celui d'Elisabeth Ballinter qui s'appelait L'amour en plus. Donc c'était des livres constructionnistes. Alors c'est un mot un peu compliqué, c'est pas très compliqué en réalité, le constructionnisme. Le constructionnisme, ça veut dire c'est socialement construit.
Voilà.
C'est pas dans la nature, c'est nous qui le fabriquons. C'est notre culture. C'est de main d'homme. Les arguments des pédophiles s'appropriaient les arguments constructionnistes pour dire bon, bah, finalement, tout ça, c'est socialement construit, l'enfant est socialement construit. Alors, on pouvait dire du présent, à l'époque, dans les années 70, bah, ce présent, il est arbitraire, il n'a pas de fondement naturel, il n'a pas de fondement divin, il n'a pas de fondement du tout. C'est juste nous qui fabriquons ça, et ça, c'est arbitraire. Et donc là, évidemment, pour rendre les choses flottantes, les perspectives des sciences humaines étaient tout à fait idéales, parce que les sciences humaines ont l'habitude de faire ça. Et donc, il y avait un transfert d'autorité, on essayait au moins de procéder au transfert d'autorité des sciences humaines à l'objet dont il est question, mais il y avait aussi du fond, quoi, c'est-à-dire une perspective constructionniste d'histoire, de sciences humaines, d'anthropologie, de sociologie, qui visait à montrer que le rapport négatif que la société avait à la pédophilie était socialement construit, donc arbitraire, donc vulnérable à la déconstruction. Et cette déconstruction-là, elle permettait d'embrayer sur une réalité plus souhaitable, une réalité où la pédophilie aurait sa place. La psychanalyse aussi a été sollicitée. Ben, la psychanalyse, c'était la science parfaite, si on peut appeler ça science. Discipline, en tout cas. La psychanalyse, c'était bien sûr la sexualité de l'enfant. La découverte de la sexualité de l'enfant, le pervers polymorphe, ça c'est une phrase qu'on a retrouvée, que j'ai retrouvée partout, le pervers polymorphe. Donc ça voulait dire quoi? La psychanalyse met au jour la sexualité infantile. Donc ce qui veut dire que si on refuse la sexualité infantile, je reprends les arguments,
bien sûr.
Si on met au jour la sexualité infantile, c'est qu'elle existe. Si elle existe et qu'on ne veut pas la reconnaître, c'est qu'on est dans une forme d'illusion. Mmh. Et cette sexualité infantile, pourquoi elle pourrait pas prendre place dans un cadre adulte-enfant? Par conséquent, il y a eu une espèce de tentative de mythification des opposants. Hein, si vous vous opposez, c'est parce que vous êtes dans la résistance. Mmh. La résistance, la fameuse résistance psychanalytique. Et tout tenait debout, finalement. La résistance, disons que ces arguments tenaient debout au sens où ils avaient une espèce de cohérence.
C'est ça, oui, oui.
Ils avaient une espèce de cohérence. De toute façon, s'ils ont eu un tel succès, c'est qu'il devait bien y avoir quelque chose qui était mobilisé par les gens, qui tenait debout. Hein, parce que si on arrive et qu'on analyse ça en disant... c'est totalement mythique, etc. Ben, on comprend pas ce qui se passe. Il faut voir à quel point l'argumentaire était sophistiqué et d'une certaine manière, prendre au sérieux cette sophistication.
Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des mouvements pro-pédophiles?
Pour l'essentiel, il n'y a plus rien. Il y a Internet. Donc la parole visible, publique du monde pédophile, c'est une parole comme totalement clandestine. Le monde social condamne de façon très radicale, de façon, je pense qu'on peut dire maintenant... unanime.
Donc on peut dire que la parole pro-pédophile a perdu la bataille.
Oui, alors c'est une déroute complète, si vous voulez, tous les arguments dont je vous ai parlé, la référence aux sciences humaines, à l'histoire, à l'anthropologie, aux sciences, à la psychanalyse, tout ça, c'est resté que des mots. Il n'y a pas eu de... Tout ça, c'est resté que des mots, il n'y a pas eu de relais, ça n'a pas produit d'effet. N'a pas produit d'effet tangible. Ils ont essayé de dire, voilà, la lutte pour la pédophilie, c'est de la politique, on va faire de la politique, c'est politisable, et la politisation de ça, ça n'a pas marché, quoi. Ce qui a été politisé, c'est la lutte contre la pédophilie, et pas la défense de la pédophilie.
L'intégralité de chacun de ces entretiens est disponible gratuitement sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube.